Voilà un président qui a décidé de ne pas renouveler son quinquennat. 50 présidences et puis s'en va. Bonjour Bernard Pivot.
Bonjour.
85 ans bientôt, dont 5 années à la tête de l'Académie Goncourt. Vous aurez passé en tout 15 ans dans cette institution. Vous êtes aussi éternellement associé à vos émissions de télévision, apostrophe, bouillon de culture. Ce départ...
Ouvrez les guillemets.
Ouvrez les guillemets, il y en a bien d'autres. Ce départ de l'Académie Goncourt, vous dites que c'est pour mieux profiter des étés à venir, sans avoir à lire la pile de livres en lice pour le Goncourt. En aviez-vous perdu le goût de lire ?
Non, j'ai pas perdu le goût de lire, mais ce qui m'apparaissait de plus en plus, avec une présence assez terrible à l'esprit, c'est que mes années deviennent rares, les années qui sont devant moi. Les étés sont des périodes extraordinaires, et j'avais l'impression quand même que je sacrifiais ces derniers étés à la lecture, même si cette lecture est passionnante. C'est agréable d'essayer de dénicher des grands talents.
Combien mais de dizaines de livres à oui, lire en trois mois?
50 et 60 livres en juin, juillet, août. Donc c'est au détriment de la famille, de la mer, du soleil, de la gastronomie, des copains, etc.
Pour résumer, vous lisiez utile et vous souhaitez désormais donc choisir enfin selon vos goûts personnels. Vers quoi vont s'orienter vos goûts personnels?
Je vais quand même continuer de lire dans l'actualité pour la chronique du journal du dimanche.
Ah donc, quand même, ah ben ça oui. Vous l'abandonnez pas.
Ah ben non, pas du bon. Tout. Non, ça n'est pas lié avec le Goncourt.
Donc vous allez continuer à lire utile avec un peu de plaisir.
Mais j'aurai un peu plus de temps pour essayer de relire, Voltaire, Huysmans, puisque Huysmans est bien d'entrer dans la Pléiade et que je ne l'ai quasiment pas lu, etc.
Et découvrir des auteurs que vous ne connaissez pas, y en a-t-il que vous ne connaissez
oui,
pas
bien sûr, Oui, bien sûr, il y a des auteurs...
Vous êtes passé à côté de certains
Oui, dans les contemporains, on ne peut pas tout lire. Attendez, il y a des tas de gens que je n'ai pas lu. Mais prenez par exemple Voltaire, que je n'ai pas tout lu. De Voltaire, loin de là.
Il y a 13 volumes,
Est-ce que j'ai lu tous les livres d'Alexandre Dumas? Non. Est-ce que j'ai lu tous les livres de Balzac? Non. Vous voyez, il y a plein de découvertes à faire, même à mon âge.
Patrice de la Tour du Pin aussi.
Alors, Patrice de la Tour du Pin, ça, c'est un peu un gag. C'est-à-dire que dans les années 70, je me rappelle, tout le monde considérait que Patrice de la Tour du Pin était un grand, grand poète. Et puis, j'ai pas eu la chance de le rencontrer, donc je ne l'ai pas lu. Et je me disais, il faudra quand même que je le lise un jour, quand même, ce type-là, quand même. Tout le monde en parle. On en parlait comme de Saint John Perse, comme de tant d'autres. Et puis les temps ont passé, puis je n'ai pas lu. Et puis alors, je me suis dit un jour, tiens, maintenant peut-être que je vais lire Patrice de la Tour du Pin, je vais voir si alors qu'on n'en parle plus du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais ça prouve que peut-être il tenait pas le coup. Mais je vais repartir à la découverte de Patrice de la Tour du Pin.
5 ans à la tête de l'Académie Goncourt, qu'aimeriez-vous que l'on retienne de la présidence Pivot?
Pendant ces 15 ans, mais pas seulement depuis que l'Académie Goncourt existe, elle est passée par différentes périodes, des périodes où elle était un peu trop sujette à la pression des éditeurs, et puis d'autres périodes comme celle-ci, où au contraire, l'Académie Goncourt a montré une indépendance tout à fait remarquable.
Quelles règles avez-vous instaurées pour éloigner la pression des maisons d'édition?
Par exemple, il est impossible aujourd'hui d'être membre de l'Académie Goncourt si on appartient à l'organigramme, donc si on est appointé par une maison d'édition. Ça, c'est absolument impossible. Autrefois, ça se faisait couramment. Évidemment, quand vous êtes appointé par une maison d'édition, les dés sont pipés. C'est évident.
Jean-Paul Dubois, donc, Goncourt 2019 aux éditions de l'Olivier. Cette maison, donc, n'avait jamais reçu cette distinction.
Jamais reçu, et je suis très content, d'ailleurs, pour quitter ma présidence en voyant qu'un nouvel éditeur entre dans la prestigieuse liste des couronnés par le Goncourt.
Il a sacrément du talent, hein, Jean-Paul Dubois.
Beaucoup. Moi, je trouve que c'est un écrivain, c'était le moment vraiment de le couronner, parce qu'après, il aurait été un peu trop âgé, et nous l'avions raté, il y a 3 ans, pour un livre s'appelle La Succession.
Ça, oui.
Et donc on l'a rattrapé cette fois. Et je pense que s'il était traduit de l'anglais ou de l'américain, Jean-Paul Dubois, il aurait un statut, une gloire bien supérieure à celle qui est la sienne. Il aurait le statut d'un John Irving ou d'un William Boyd. Mais il y a toujours une plus-value pour les romans traduits de l'anglais et de l'américain, au détriment d'ailleurs des romanciers français.
Le jury de l'Académie Goncourt, c'est 9 plus 1, vous, oui. Ça fait 10. Avez-vous été parfois en désaccord sur l'attribution du Goncourt?
Oui, parce que j'ai été battu dans le... c'est évident. Je crois sur 15 ans, j'ai plus souvent été du côté de la majorité que de la minorité, mais il est arrivé, bien entendu, que j'ai voté pour un candidat qui n'a pas eu le prix Goncourt. Ça va de soi, mais ça, c'est la règle démocratique. On va pas claquer la porte du Goncourt parce qu'on a été battu à un scrutin.
Oui, mais on peut se fâcher très fort.
Comment ?
On peut se fâcher très fort.
C'est arrivé. Moi, pendant les 15 ans, il n'y a pas eu beaucoup de grandes fâcheries. Non, vraiment, on ne peut pas dire que... C'est pas comme autrefois où ils claquaient les portes. Il y avait des académiciens Goncourt, par exemple, qui refusaient de déjeuner avec leurs camarades. Donc, ils déjeunaient en bas, au rez-de-chaussée. Ça, c'est fini.
Sur cette ambiance au sein de l'académie, y a-t-il des clans, des chapelles et donc des querelles partisanes?
Non, il y a chacun... Alors, il y a des gens extrêmement différents. Vous imaginez, l'académie Goncourt est composée à la fois de Virginie Despentes, François Chandanagor, Éric Emmanuel Schmitt, Patrick Rambaud, sont des gens qui ont beaucoup de talent, chacun a du talent, mais ce sont des gens qui ont une sensibilité littéraire extraordinairement différente. Mais c'est ça qui est intéressant à l'Académie Goncourt. Si on avait tous les mêmes opinions à la fois politiques, philosophiques et littéraires, ce serait d'un ennui mortel.
Alors vous faites non seulement la gloire, mais vous faites aussi la fortune d'un écrivain. Est-ce une responsabilité à laquelle vous pensez au moment d'attribuer ce Goncourt, cette fortune que vous allez attribuer? C'est combien d'ailleurs? C'est plus d'un million?
Ça dépend.
Ça dépasse largement le million en général.
C'est 10 euros la récompense du Goncourt. On fait un chèque de 10 euros. Alors,
mais après, ça se traduit en vente.
C'était 50 francs avant.
C'est pas grand-chose. Alors généralement, le L'Oréal fait encadrer le chèque. Il ne le touche pas. Il y a une fois où un auteur l'a touché.
Qui ça?
J'oublie son nom, c'est un écrivain suisse, j'oublie comment il s'appelle. Alors voilà le problème de vieillir, on oublie les noms, ça c'est terrible.
Vous portez bien vos 85 printemps bientôt, 85 été, vous préférez l'été au printemps, vous parlez toujours de l'été, rarement du printemps.
Parce que l'été quand même, la saison où le corps peut s'exposer, même quand il est vieux, où on peut aller faire des virées gastronomiques avec la famille, avec les amis, avec les copains, c'est ça. Vive les étés.
Mais vieillir, c'est chiant. Je me permets de vous dire ça parce que vous aviez écrit un texte intitulé comme ça.
Oui, vieillir, c'est chiant. Oui, vieillir, c'est très chiant. Et c'est justement parce que c'est chiant que je quitte l'Académie Goncourt et que j'ai assez de lucidité encore aujourd'hui pour penser que peut-être dans un an ou deux ans, j'aurai plus cette lucidité. Je me laisserai gagner par ça va encore. Mais non, pas du tout. Il faut partir au moment où ça va bien et ne pas attendre le moment où ça ira mal.
Et à toutes vos activités, il faut donc ajouter, vous en parliez, votre chronique littéraire dans le JDD. Colette, ce matin, dans le JDD, la chronique.
Qui a été mon prédécesseur au couvert, qui est le mien.
Et on pense à Saint-Sauveur, la commune bourguignonne de Colette. C'est un livre signé Frédéric Maget sur les sept vies, comme un chat, les sept vies de Colette. Toujours dans cette chronique du JDD, la littérature française, rarement étrangère. Pour quelle raison?
Oui, parce que Marie-Laure Delorme, qui est chef,
l'autre chroniqueuse
littéraire du Dimanche, s'occupe beaucoup de la littérature étrangère. Puis tout simplement parce que membre de l'Académie Goncourt, j'étais obligé de lire à dose considérable la littérature française. Et c'était la suite d'Apostrophe, où Apostrophe aussi, je lisais beaucoup de romans français, de littérature française, au détriment de la littérature étrangère, bien sûr. Et vous me demandez ce que j'allais lire. Peut-être que je vais lire justement des auteurs étrangers que je n'ai pas lus depuis 30, 40 ans.
Trouvez-vous la langue française misogyne ?
Misogyne, elle l'est de moins en moins. Elle l'a de moins en moins parce qu'on fait attention aujourd'hui. On dit une écrivaine, on dit...
Et sur votre plateau, vous avez reçu des gens, je pense à Gabriel Mazenet, je pense à Vladimir Nabokov, qui d'ailleurs, Nabokov, vous étiez allé le voir.
Hein, Apostrophe.
Il est venu
sur le plateau. Est-ce que, aujourd'hui, vous recevriez encore des écrivains de ce
type? Oui, écoutez, leurs livres sont en vente autorisés. Donc
je vous pose une question.
Bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, est-ce que Nabokov, s'il publiait, un nouveau Nabokov publierait
Lolita encore?
Comment le livre serait reçu? Alors, rappelez-vous quand même que le livre a fait scandale. Il a été interdit pendant très longtemps. On l'achetait sur les quais en catimini. C'était pas un livre qui a été accueilli comme ça avec des transports de joie en disant oui, c'est magnifique.
D'ailleurs, en 75, pour cette apostrophe avec Nabokov, on avait dit que Nabokov lisait des réponses écrites sur des fiches derrière. C'était vrai,
ça? Vous avez demandé les questions avant, c'est ça?
J'allais été le voir en Suisse. Je lui ai dit voilà. Il refusait toute interview. Alors, il m'a dit écoutez, je veux bien aller dans votre émission, mais à condition que vous m'envoyiez les questions par écrit et j'y répondrai par écrit et je les lirai devant au micro en direct. Et il m'avait dit voilà, vous mettrez un peu de. Vous ferez un rempart de livres qui cache mes fiches et je suis assez adroit dans l'art de faire à croire que mes yeux vont chercher au ciel l'inspiration. Au fond, ce jour-là, j'ai été un mauvais journaliste puisque j'ai accepté quelque chose qu'on ne doit jamais accepter, c'est-à-dire donner les questions.
Sinon, vous ne l'auriez pas eu.
Mais je ne l'aurais pas eu. Donc, au contraire, je me suis dit, j'ai eu raison de mettre ma fierté dans ma poche et mon mouchoir par-dessus et d'avoir enfin Nabokov.
Une autre que vous avez eu du mal à obtenir, en tout cas pour la première fois, c'est Marguerite Duras. Vous avez mis du temps à la persuader. Puis quand elle s'est aperçue que ça, elle vendait beaucoup plus de livres apostrophe qu'avant,
C'était pour L'Amant en 1984.
Voilà. Et le lendemain, le samedi matin, ça a été une ruée dans les librairies pour acheter L'Amant qui se vendait déjà très bien.
Oui, 80 000 avant, mais 240 000 après votre émission.
Et elle avait été sidérée devant les faits. Alors du coup, elle qui détestait la télévision s'est mise à l'aimer d'une manière permanente.
Quand on vend un livre, la télévision, ça aide, et aussi la radio avec France Inter, et c'est mieux. Et c'est tant mieux. Le goût de l'écriture que vous avez, jusqu'à tweeter régulièrement sur ce réseau social. Je lis votre prose d'hier, samedi. Quand le train des équipages recule, c'est que l'armée fait retraite. Et quand les équipages des trains restent à quai, c'est que le cheminot prend ou défend sa retraite. Quel plaisir prenez-vous à écrire de façon aussi condensée comme ça sur ce réseau social?
Eh bien, je dirais pas, c'est de l'hygiène mentale. C'est bien à mon âge justement d'avoir de pouvoir essayer de résumer une idée, un sentiment, un souvenir en quelques mots, d'une manière, une formule frappante et de telle manière que ça amusera le public. Moi, je fais pas de mots croisés, je fais des tweets. Je garde un esprit assez vif.
Ça fait plus jeune,
justement.
Hein.
Avec plus ou moins de bonheur, et même des polémiques à propos de la jeune Greta Thunberg. On va en reparler fermer cette parenthèse, mais tout de même, on vous a reproché d'avoir décrit cette adolescente de 16 ans comme une jeune fille coincée qui ferait fuir les garçons à l'opposé de l'image. À l'opposé de l'image que vous faisiez à l'époque des petites Suédoises à votre époque adolescente. N'avez-vous pas anticipé aujourd'hui que vous vous lanciez dans une attaque qui serait évidemment qualifiée de sexiste?
Dès qu'on fait une petite remarque sur le sexe féminin, etc., immédiatement on est taxé de sexisme. Alors si on fait attention à ça, on n'écrit plus rien du tout.
Non. Sexualiser une gamine de 16 ans, ça ne bouge pas?
Non, mais je ne vais pas sexualiser la gamine de 16 ans. Non, ça, là, vous exagérez. C'est pas vrai.
Vous simplement... Vous parliez des rapports entre les garçons et les filles.
J'essayais de me rappeler, quand on avait 17, 18, 19 ans, on se disait, à tort ou à raison, on sait rien, que les petites Suédoises étaient plus accordes que les petites Françaises, ou même que les petites Anglaises. C'était une idée reçue. Donc, je me suis rappelé ce souvenir et je me suis dit, évidemment, qu'en voyant la jeune Suédoise, on n'aurait pas eu ce sentiment-là. C'est tout. Ça va pas plus loin.
À l'heure de la parité aujourd'hui, est-ce que cette parité homme-femme fait partie des critères d'attribution du Goncourt au fil des années?
Non, pas du tout. Enfin, on n'y pense pas, ça. Moi, évidemment, il vaudrait mieux qu'il y ait un peu plus de femmes. Parce qu'entre les deux guerres, il n'y en a pratiquement pas eu. Mais il faut dire à ce moment-là que les romancières n'étaient pas très nombreuses. Mais il faudrait. Mais si on prend des critères, alors la parité du sexe, etc., c'est au détriment de la littérature. Non.
cette gourmandise pour gourmandise, je dis ce mot parce qu'il fait partie des qualificatifs, en tout cas des noms communs que vous attribuez sur votre profil des réseaux sociaux. Oui. Cette gourmandise pour la lecture, elle vous vient d'où? La lecture, plutôt l'écriture d'ailleurs, plus que la lecture.
Les deux.
Vient d'où?
Les deux. C'est... Écoutez, elle me vient pas de ma jeunesse parce que j'ai lu vraiment modérément. Elle me vient par.
Il y avait les femmes de La Fontaine chez vous?
Ah bah oui. En réalité, j'ai eu la passion des mots avant la passion de la littérature. Tout simplement, c'est que pendant la guerre, nous n'avions pas de livres et que dans mon petit village du Beaujolais, Quincy en Beaujolais, je salue les habitants, nous n'avions pas de livres. On avait un petit dictionnaire Larousse, un vieux dictionnaire et puis des...
Et les fables de La Fontaine.
Un recueil des fables de La Fontaine. Mmh. Alors voilà. Donc j'ai aimé les mots. Je puisais dans les fables de La Fontaine des mots que je ne connaissais pas, dont le sens m'a été donné par le petit Larousse et je les notais sur des petits carnets, des feuilles volantes. Et un jour. Qu'est-ce que j'ai été con. À vers 18-19 ans, j'ai foutu en l'air toutes ces petits carnets, ces petites feuilles volantes, disant que ces bêtises.
Quel gâchis.
Maintenant, je serais tellement heureux de les avoir et de voir quels étaient les mots que je retenais à l'époque. C'était les mots qui me séduisaient. Ah, idiot.
Et vous parliez de gourmandise, Éric Delvaux, Beaujolais, on peut pas ne pas parler de votre passion pour le vin et de votre connaissance du vin. Il faut dire que c'est grâce au vin que vous avez commencé dans la littérature, parce que il me semble bien qu'il y a de nombreuses années de ça, vous avez été engagé au Figaro littéraire.
Oui.
C'était pas du tout fait. Enfin, non. Vous pensiez même que ça n'allait pas se faire du tout. Et puis, vous êtes le seul peut-être à avoir su comment on appelait un petit tonneau de 10 litres de Beaujolais.
Ça s'appelait un caquillon.
Et c'est grâce à ça que vous avez eu votre place
absolument.
Au Figaro littéraire.
Ben oui, parce que Maurice Noël, qui était un formidable rédacteur en chef du Figaro littéraire, qui était un ami de Paul Valéry, de Paul Claudel, a posé des questions sur mes lectures auxquelles j'étais incapable de répondre, bien entendu. Et à un moment, il m'a dit, mais est-ce qu'il vous arrive de lire? Alors j'ai dit oui, bien sûr qu'il m'arrive de lire, mais un peu. Mais vous lisez qui? Alors j'avais cité Blondin, Marceau, et alors un nom qu'il fallait pas dire au Figaro, Aragon. Oui, donc c'était cuit. Et puis d'un seul coup, il m'a dit mais vous êtes d'où? J'ai dit je viens de Lyon. Ah, oh, me dit Lyon. J'ai gardé des bons et de mauvais souvenirs de la ville de Lyon parce que quand le Figaro s'est replié à Lyon en zone libre, eh bien nous allions manger des petits saucissons quand il y en avait, arrosés de bons Beaujolais. Et là, j'ai eu la question de ma vie, qui change toute ma vie. Je lui dis, ah, vous aimez le Beaujolais? Il me dit, oui, oui, quand il est bon. Et je lui ai dit, ma mère possède un petit vignoble dans le Beaujolais. Et là, j'ai vu son visage, qui était jusqu'alors fermé, s'épanouir. Et c'est là où il m'a posé la question du caquillon. Et il m'a dit, contre un chèque, est-ce que je peux avoir un petit tonneau de Beaujolais? Je lui ai dit, oui, bien entendu. et il m'a dit, je vous prends à l'essai, vous commencez lundi. C'est comme ça que ma carrière s'est décidée.
Votre goût pour le vin, donc, et pour le football aussi. Alors, avec modération pour le premier, avec assiduité pour le second, le football?
Oui, un peu moins aujourd'hui, parce que mais enfin, ça m'arrive très souvent de regarder. Il y a tellement de football à la... Par exemple, hier, j'ai regardé le match Montpellier-PSG. Et tout d'un coup, on a vu trois buts extraordinaires du PSG en 7 minutes. C'était étonnant. Alors que le match était plutôt embêtant.
Embêtant, mais trois beaux buts, ça suffit à vous réjouir.
Trois beaux buts, c'est formidable.
Et on n'a pas parlé d'une autre de vos passions, c'est la musique Mozart.
Ah ben oui, non, mais j'aime beaucoup évidemment toute la musique classique, le jazz, etc. Oui, c'est ça. Ce que je n'écoute plus aujourd'hui, c'est les chansons. C'est fou, ça.
Vous avez reçu Brassens, pourtant, apostrophe. Oh, vous n'écoutez plus Brassens.
Ferré, Léo Ferré,
très bien. Le rap, par exemple, ça vous plaît
non,
pas
non, non,
non.
Non, non.
Ah, vous devriez découvrir,
oui, mais
bien sûr, qu'il y a des belles choses.
Oxmo Puccino, ça vous dit quelque chose? C'est un rappeur qui
non,
fait
non,
de la...
Non, non, non.
Dont le flow inonde aujourd'hui avec succès nos ondes.
Un aveu. C'est qu'avec l'âge, on peut pas... On est obligé de s'intéresser à moins de domaines qu'autrefois. On est obligé de sélectionner ces thèmes et ces domaines. Et donc, moi, j'ai abandonné la chanson. Je m'intéresse pas à la chanson d'aujourd'hui, parce que j'ai pas le temps, parce qu'il faut que je continue à m'intéresser aux livres, au cinéma, à la musique, etc. Voilà. Donc, je vis avec les anciens chanteurs. Au fond, on est d'une génération de chanteurs comme on est d'un pays.
On va noter cette phrase-là pour ce dimanche matin. On parlait de Brassens, que vous avez reçu un mois après le début d'Apostrophe dans les années 75. En 1975, vous avez reçu également celui qui allait devenir chef de l'État pendant deux septennats, François Mitterrand, pour La paille et le grain. Aujourd'hui, diriez-vous que François Mitterrand était un bon, un grand ou un mauvais écrivain?
Ah non, c'est un bon écrivain. C'était un bon écrivain. Alors, il considérait que s'il n'avait pas fait de la politique, il aurait pu devenir écrivain. Il avait une qualité d'écriture qui est assez rare chez les hommes politiques. Et surtout,
il avait le goût de la littérature.
Mais il avait surtout le goût de la littérature.
Mais il aimait lire. Il suffit pas d'avoir un goût de la littérature pour avoir la plume.
Non, mais il avait les deux. Il aimait lire les romanciers, les grands écrivains, et il avait une vraie qualité de d'écriture.
On ne vous posera pas la même question pour Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, non, ce n'est pas la même chose. Lisez sa correspondance avec Anne Pinjot. Il y a des lettres superbes.
Des lettres d'amour.
Des lettres superbes.
Enflammées. On est plus dans un
registre. Oui, mais ce n'est pas parce que vous êtes amoureux que vous avez du talent.
Exactement.
Alors.
Ah bah ça, c'est vrai. Vous avez raison, Bernard Pivot.
Merci beaucoup Bernard Pivot d'être venu commenter hier ce matin ce bilan donc de vos 15 années au sein de l'Académie Goncourt, faiseuse de reines et de rois littéraires. Merci beaucoup Bernard Pivot.
Merci.
Et bonne journée, il est 8h41.